VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, excellent début de journée en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Michel Joseph en ce mardi. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission ce matin.
Journée ville morte ou journée de tension ce mardi au Congo-Brazzaville. L'appel des opposants à contester pacifiquement la réélection annoncée de Denis Sassou Nguesso.
À Kinshasa, l'opposition rejette les résultats des élections des gouverneurs.
Le peuple congolais a besoin de voir la constitution respectée. La constitution est très claire. M. Kabila doit partir le 19 décembre.
Nouvelles accusations d'abus sexuels contre la mission de l'ONU en Centrafrique.
Au Burkina, les étudiants tchadiens exclus de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou pour non-paiement des frais universitaires se font entendre.
Ils sont venus pour recenser les types des étudiants tchadiens à deux yeux et on a présenté même nos certificats de scolarité.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le Journal des Sports, les éliminatoires de la CAN 2017 se poursuivent. Le Mali proche de la qualification, la RDC en déplacement ce mardi en Angola. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Journée ville morte ce mardi au Congo-Brazzaville à l'appel de l'opposition. 5 candidats contestant la victoire au premier tour du président sortant Denis Sassou Nguesso demandant aux populations de rester chez elles. Mais les autorités se déclarent prêtes à sévir contre tout fauteur de troubles. Ngwelin Goussou, correspondant de VOA Afrique à Brazzaville.
Toute la soirée hier, les autorités et les responsables des organisations des jeunes et des femmes se sont succédé aux éditions d'information, appelant les populations à sortir massivement pour vaquer aujourd'hui à leurs occupations. Certains chefs d'entreprise et d'administration ont même menacé de sanctionner tous ceux qui ne se rendront pas au service ce matin. Et pourtant, lundi jusqu'en fin d'après-midi, les banques, les agences de transfert d'argent et les commerces sont restés noirs de monde. Les familles essayaient de faire quelques provisions pour rester tranquillement chez elles. Il n'est pas question, disent-elles, de sortir dans un climat conflictuel. Depuis quelques jours, les arrestations des opposants se sont multipliées à Brazzaville et à Pointe-Noire. Hier soir, la présence des forces de sécurité a été renforcée dans plusieurs villes du Sud, favorables à l'opposition, dans le but de sévir contre tout fauteur de troubles, a expliqué la police. Ngwelin Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Rencontré hier à Niamey entre le Premier ministre nigérien, une délégation de l'opposition qui conteste la réélection du président Mahamadou Issoufou. Lors de cette rencontre, Brigui Raffini a remis un message officiel d'invitation du président à la délégation de l'opposition pour participer à un gouvernement d'union nationale. L'opposition nigérienne conditionne tout dialogue à la mise en place d'une transition politique.
Le nouveau président béninois élu Patrice Talon était hier à Lomé. Une courte visite pour un tête-à-tête avec le président togolais Faure Gnassingbé. Patrice Talon sera investi le 6 avril prochain.
L'ONU a fait état de nouvelles accusations d'abus sexuels impliquant ces casques bleus en Centrafrique. On fait le point avec Félix Yepassi Zembrou.
Des membres du contingent militaire burundais de la MINUSCA basé à Sibut sont accusés d'avoir violé une mineure âgée de 14 ans. Et un soldat marocain non encore identifié est de son côté accusé d'avoir exploité sexuellement une femme adulte en février dernier à Bangassou. Rabat et Bujumbura ont été informés et le Maroc a indiqué qu'il allait mener une enquête, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU. Face à la multiplication des scandales de ce genre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est engagé à rapatrier des contingents entiers en cas d'accusation persistante et le Conseil de sécurité a adopté le 11 mars une résolution en ce sens.
Autre mission onusienne dans le viseur, le MINUSMA au Mali. Les Nations Unies jugent alarmante la situation sécuritaire dans le nord du pays et demandent au gouvernement malien et aux pays contributeurs de déployer des efforts additionnels pour y faire face. John Linden.
Le secrétaire général Ban Ki-moon souligne dans son dernier rapport sur ce dossier que les régions nord et centre du Mali restent sous la menace de réseaux criminels, d'extrémistes violents et de groupes terroristes. Le rapport confidentiel transmis au Conseil de sécurité fait état de difficultés opérationnelles persistantes pour la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Ban Ki-moon demande aux pays fournisseurs des casques bleus et aux pays donateurs de maintenir leurs efforts afin que tous les contingents de la MINUSMA aient des équipements et un entraînement conforme aux standards de l'ONU. Le secrétaire général onusien appelle en particulier au déploiement rapide des véhicules blindés de transport de troupes qui manquent. De son côté, le gouvernement malien doit renforcer la présence de ses forces armées dans le nord et s'efforcer de rétablir plus largement les services publics de base dans cette région afin de garantir à la population locale les bénéfices tant attendus de la paix.
En Angola, 17 opposants ont été condamnés à Luanda à des peines de 2 à 8 ans de prison. Le rappeur Luati Berao, qui a mené une grève de la faim l'an dernier, a été condamné à 5 ans et demi de prison pour rébellion contre le président, association de malfaiteurs et falsification de documents. Quant à Domingos da Cruz, présenté comme le leader du groupe, il a écopé de 8 ans et demi de prison pour tentative de coup d'État et association de malfaiteurs.
Robert Mugabe est en visite au Japon. Le dirigeant zimbabwéen a été reçu hier par le premier ministre japonais, Shinzo Abe. Il s'agit du 4e séjour japonais du président Mugabe au pouvoir depuis 1987 et dont le pays fait l'objet de sanctions internationales. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré vouloir travailler à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec M. Mugabe, qui a assuré la présidence tournante de l'Union africaine l'an dernier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, nouveau bilan des attentats de Bruxelles. Une semaine après ces attaques qui ont endeuillé la Belgique, au moins 35 morts ont péri. 340 autres personnes ont été blessées, selon les autorités. Faisal Chefou, seul inculpé dans l'enquête sur les attentats de Bruxelles et initialement soupçonné d'être le troisième assaillant de l'aéroport, a été remis en liberté.
Le pape François demande aux autorités du Pakistan de tout faire pour assurer la sécurité de la population et en particulier celle de la minorité chrétienne. Une déclaration qui intervient après la revendication de l'attaque de Lahore par une faction du mouvement taliban pakistanais. Au moins 72 personnes sont mortes lors de cet attentat qui a eu lieu en plein dimanche de Pâques.
En Syrie, après la reprise de Palmyre, le régime continue de pourchasser les djihadistes du groupe État islamique. À Washington, le département d'État a qualifié de bonne chose la défaite de l'EI à Palmyre, sans toutefois féliciter le président syrien Bachar el-Assad, dont les États-Unis souhaitent le départ. Une source militaire syrienne a indiqué que des opérations militaires avaient commencé en direction de la province pétrolière de Deir ez-Zor, contrôlée en grande partie par le groupe djihadiste.
Les pays riches n'ont réinstallé qu'une fraction des près de 5 millions de réfugiés qui ont fui la Syrie. C'est ce qu'indique dans un rapport Oxfam. L'ONG britannique demande aux pays riches de prendre au moins 10% des 4,8 millions de réfugiés syriens enregistrés dans la région, entourant le pays déchiré par la guerre. Mais à ce jour, les pays riches n'ont réinstallé que 67 100 personnes, soit 1,39% des réfugiés, selon elle.
Et l'ONG a publié ce rapport avant la tenue de la conférence internationale qui aura lieu demain sous l'égide de l'ONU à Genève, durant laquelle les pays seront priés de prévoir des places de réinstallation pour les réfugiés syriens. A noter, selon Oxfam, que seuls trois pays, le Canada, l'Allemagne et la Norvège, ont fait plus que ce qu'ils étaient censés faire par rapport à leur situation économique.
Fin du bras de fer judiciaire entre le géant informatique Apple et le FBI. Les enquêteurs ont réussi à débloquer l'iPhone d'un des auteurs de l'attentat de San Bernardino. Washington tentait depuis mi-février de forcer Apple à l'aider à débloquer le iPhone de Syed Farouk, auteur avec son épouse Tashfin Malik de l'attentat de San Bernardino.
En Égypte, 32 juges ont été mis à la retraite. Ils avaient refusé de reconnaître la légalité de la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi.
Le Conseil judiciaire suprême a décidé hier de mettre à la retraite d'office ses 32 juges. 15 autres magistrats avaient déjà subi le même sort il y a une semaine. Ils avaient tous rejeté la légalité de la destitution le 3 juillet 2013 de Mohamed Morsi, le président élu. La Commission internationale des juristes estime que c'est une mesure arbitraire et injuste, ajoutant que l'intensité des attaques contre les juges a atteint un niveau effrayant. Certains juges égyptiens s'étaient exprimés ouvertement devant une gigantesque manifestation pro-Morsi au Caire le 14 août 2013. Ce jour-là, les forces de l'ordre avaient tiré à balles réelles,
tuant plus de 700 manifestants. Mohamed Morsi a été condamné à mort et le général Abdel Fattah al-Sissi a été élu président en mai 2014.
Idriss Fall pour ses précisions.
Le vieillissement de la population mondiale accélère à un rythme sans précédent, selon le bureau américain du recensement. Les plus de 65 ans devraient représenter près de 17% des habitants de la planète d'ici 2050, contre 8,5% actuellement.
Ainsi s'achève le journal sur VOA Afrique. Nous continuons notre émission avec la Minute Éco, présentée ce matin par Maëlys Segel.
La Banque des États de l'Afrique centrale s'est réunie lundi à Yaoundé, au siège de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le gouverneur Luka Abaga Chama a exhorté le Fonds monétaire international à étendre ses crédits à tous les pays africains, et notamment à ceux de la zone économique de l'Afrique centrale, afin de financer leurs projets d'infrastructure. Ces six États d'Afrique centrale ont des économies qui reposent largement sur l'exploitation des matières premières, notamment le pétrole, qui connaissent une chute constante. Le gouverneur a donc indiqué comment les aides du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement sont capitales pour ces économies en recherche de financement. Pour une première, la Banque des États de l'Afrique centrale a décidé de mettre à disposition une ligne de crédit de plus de 400 milliards de francs CFA. TransCanada, l'entreprise canadienne du secteur énergétique, cherche à vendre ses activités de production d'énergie qui se trouvent dans la région de la Nouvelle-Angleterre, au nord-est des États-Unis. La raison, le financement de son acquisition de 10 milliards de dollars du groupe Columbia Pipeline à Houston. L'entreprise canadienne avait acheté 13 barrages hydroélectriques sur les rivières du Connecticut et de Deerfield en 2005 afin de s'étendre aux États-Unis. Mais aujourd'hui, TransCanada décide de vendre ses activités après des années de controverses concernant le projet d'oléoduc Keystone refusé par Barack Obama en novembre 2015.
Merci Maëlys, place à présent au sport. Un journal des sports chargé ce matin, on commence par le football. Suite de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali vainqueur sur le fil, sur le terrain de la Guinée équatoriale 1-0, a fait un grand pas vers la qualification en conservant la tête du groupe C. Les hommes d'Alain Giresse ont réussi à prendre les 3 points grâce à un but de Moustapha Yatabaré juste avant la fin du temps réglementaire. Et ce matin, les Maliens conservent leurs 2 points d'avance sur le Bénin. La Centrafrique a battu Madagascar 2-1 sur sa pelouse fétiche du stade Barthélémy Boganda de Bangui. Ce sont pourtant les Baréas qui avaient ouvert le score en première mi-temps. Au retour des vestiaires, les Fauves du Bazou Bangui égalisent grâce à Salif Keita avant que Moussa Liman ne donne l'avantage à son équipe. Avec 7 points glanés en 4 matchs, les hommes d'Hervé Lugunji prennent provisoirement 1 point d'avance sur la RDC qui se déplace tout à l'heure en Angola. Dans les autres rencontres de ce lundi, le Zimbabwe et la Libye ont réalisé un carton en l'emportant 4-0 respectivement face au Swaziland et Sao Tomé et Principe. On rappelle que la rencontre entre le Tchad et la Tanzanie a été annulée en raison du forfait de l'équipe tchadienne. A noter aussi que la Sierra Leone a battu le Gabon 1-0, c'était à Freetown en match amical. On joue ce mardi également la suite de cette quatrième journée, la Guinée en déplacement au Malawi, le Rwanda qui accueille l'île Maurice. Après son carton 7-1 à l'aller, les Algériens se rendent en Égypte, le MENA du Niger accueille à Niamey le Sénégal, le Burundi en Namibie, à Lomé, la Tunisie affronte le Togo, je vous le disais, les Léopards de la RDC en déplacement en Angola, le Burkina Faso ira en Ouganda, la Mauritanie se déplace en Gambie, l'Afrique du Sud accueille le Cameroun, le Soudan reçoit la Côte d'Ivoire et le Maroc face au Cap-Vert. Autre rencontre ce mardi mais en Europe, une semaine après les attentats qui ont frappé la capitale belge, les Diables Rouges de Belgique joueront très certainement le cœur lourd face au Portugal. Ce match amical finalement déplacé de Bruxelles à Leiria où le public et les joueurs se recueilleront en hommage aux victimes. Et puis l'équipe de France va affronter la sélection russe. Toujours en match de préparation pour l'Euro 2016. Tennis, tournoi de Miami. Élimination surprise de la reine du tennis féminin Serena Williams, qui a pourtant remporté les 3 derniers titres à Key Biscayne. L'américaine a sombré face à la russe Svetlana Kuznetsova 6-7, 6-1, 6-2,
lors des huitièmes de finale. Chez les hommes, Andy Murray, numéro 2 mondial au classement ATP, a lui aussi été sorti par le Bulgare Grigov Dimitrov, 6-7, 6-4, 6-3. Enfin, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain. Miami domine Brooklyn, 110 à 90. Oklahoma City s'impose à Toronto, 119 à 100. Nouvelle défaite de Chicago sur son parquet face à Atlanta, 100 à 102. Voilà, c'est tout pour ce journal des sports sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Partons pour la République démocratique du Congo, où l'opposition rejette les élections des gouverneurs des nouvelles provinces remportées le week-end dernier à plus de 70% par la majorité présidentielle. Ces élections constituent, selon l'opposition, une des manœuvres du pouvoir pour maintenir le président Joseph Kabila sur son fauteuil au-delà de la limite constitutionnelle. Eddy Sango a joint l'un des leaders de la plateforme dynamique de l'opposition, le député Martin Fayulu.
Ces députés provinciaux qui ont élu des soi-disant gouverneurs n'avaient pas qualité parce que ces députés ont été élus dans les cadres des 11 provinces et non 26 provinces. Les députés sont fait mandat depuis et nous ne pensons pas qu'ils soient légitimes pour élire les gouverneurs. On n'a pas prévu dans ces pays des gouverneurs à deux vitesses. Il y a des gouverneurs qui ont été élus en 2006 dans les cadres des 11 provinces et maintenant il y a des gouverneurs qui sont élus par les députés et élus en 2006. Nous nous disons que ça ne nous concerne pas.
Certains partis de l'opposition ont participé à ces élections quand même.
C'est une affaire de M. Kabila et de ses affidés, de ses amis. Ça ne concerne pas l'opposition.
Les présidents de la Commission nationale électorale indépendante a expliqué l'urgence et a essayé de justifier l'organisation de ces élections à parler de la nécessité d'organiser les nouvelles provinces créées.
Le peuple congolais a besoin de voir la constitution respectée. La constitution est très claire. M. Kabila doit partir le 19 décembre et avant le 19 décembre, il faut avoir un président élu et ce président devra prêter serment le 20 décembre. Et les Congolais n'attendent rien d'autre.
Les nouvelles provinces ont été créées. Et l'opposition a dénoncé la nomination des commissaires spéciaux qui devaient gérer ces provinces, les nominations par le président de la République. Quelles deviendraient alors ces provinces si on devait ne pas considérer ces élections?
Poser la question aux gens qui ont démantelé les provinces sans prendre de disposition. Aujourd'hui, les gens se plaignent, rien ne marche dans le pays. Nous allons nous poser la question tous, que deviendrait pas simplement ces nouvelles provinces, mais tout le pays.
Vous attendez l'élection présidentielle qui ne pourrait pas se tenir selon la CNI d'ici la fin de l'année, car il faut d'abord réviser les fichiers électoraux, ce qui nécessite plus de temps que prévu.
Vous regardez dans son document d'appel d'offres, précise que l'opération d'enrôlement doit prendre 2 mois, 60 jours. Alors je ne comprends pas d'où viennent les 13 ou les 16 mois, non.
Martin Fayulu, leader de l'engagement pour la citoyenneté et le développement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Nous vous en parlions hier, le chef de l'État béninois Thomas Yayiboni n'aurait perçu en demande ni salaire, ni indemnité de santé, de logement, de résidence, ni prime ou tout autre avantage afférent à la fonction présidentielle. Cette révélation du Conseil des ministres fait polémique au Bénin et certains se demandent l'intérêt d'une publication soudaine du patrimoine acquis par Yayiboni en 10 ans de pouvoir. Notre correspondante Ginette Fleur-Adandé a recueilli les réactions à Cotonou.
La révélation est inattendue et certains s'en moquent d'ailleurs dans un conseil de Colibé. Yaïboni, pour résumer, le communiqué du Conseil des ministres aurait travaillé sans bénéficier des avantages financiers et autres qui en découlent. Du bénévolat au service de l'État, titre d'ailleurs certains journaux en ligne qui trouvent que le Bénin aurait bénéficié gratuitement de l'expertise du chef de l'État pendant 10 ans. Le commun des Béninois préfère prendre avec des pincettes cette information jugée inopportune.
S'il n'a pas perçu de salaire et qu'il a laissé ce salaire pour une bonne cause, félicitations. Si on lui doit de l'argent, qu'on le rembourse. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Oui, ils peuvent se permettre de le dire. Salaire ou pas salaire, il s'en va. Je crois qu'on a dépassé ces questions-là. Il faut maintenant penser à l'avenir.
Le président de la République d'abord a une caisse noire qu'il peut utiliser comme il veut. Je crois que le président de la République a d'autres moyens pour utiliser l'argent de l'État comme il veut. C'est son droit absolu en tant que chef de l'État. Par exemple, actuellement, il a voyagé en Afrique du Sud, il a été opéré. C'est l'argent de l'État. Alors, ce n'est pas, cette information n'est pas importante pour le peuple.
En autorisant la publication de son patrimoine acquis entre le 6 avril 2006 et le 26 mars 2016, Yaïboni entend, selon certains, montrer jusqu'où il était prêt à aller dans son souci de servir la nation béninoise. Le chef de l'État n'aurait qu'un seul compte bancaire à Ecobank Bénin crédité à la date d'aujourd'hui de 10 millions de francs CFA. Il ne disposerait que de 2 villas situées dans le nord du Bénin et de 3 véhicules 4x4 acquis sur fonds propres. Certains doutent de la justesse de cette révélation pendant que d'autres pensent que le camp présidentiel s'est senti obligé de le faire à cause de Patrice Talon qui a déclaré au lendemain de son élection que le Bénin a une dette intérieure de 300 milliards de francs CFA. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Allez, partons pour Ouagadougou. Une délégation gouvernementale tchadienne séjourne au Burkina Faso pour examiner la situation de 315 étudiants tchadiens. Ils ont été exclus de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou pour non-paiement des frais universitaires. Également privés de bourse, certains de ces étudiants ont investi les locaux de l'ambassade tchadienne et d'autres campent devant les grilles depuis plus de 2 semaines en guise de mécontentement. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint l'un des porte-parole de ces étudiants, Charles Dagou.
La délégation est composée notamment des personnes venant du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a aussi un représentant du ministère des Finances. Il y a le premier conseiller de l'ambassade qui faisait partie de la délégation aussi. Et ont assisté aussi à la réunion le premier secrétaire de l'ambassade, l'attaché militaire aussi de l'ambassade.
Quel est le résultat de cette première réunion que vous avez eue avec la délégation?
Ils nous ont dit qu'ils sont venus pour prendre des engagements avec 2 yeux et essayer de payer les frais de scolarité que 2 yeux demandent. Mais avant de payer les frais de scolarité, ils vont d'abord toiletter les factures pour voir quels sont les montants exacts à payer.
Qu'en est-il de votre situation, de vos bourses de subsistance?
Sur notre bourse de subsistance, ce qui nous a surpris, on nous demande de présenter nos arrêtés de bourse, on nous demande de présenter ce qui atteste que nous sommes étudiants boursiers tchadiens à 2 yeux. Mais sur ce point, nous, on nous dit qu'on est en phase de transition parce que le ministère en charge de notre situation était le ministère de l'Agriculture et il est en train de passer le bâton de commandement au ministère de l'Enseignement supérieur. Et il a fait déjà un rapport détaillé de la situation et il a envoyé ce rapport-là au niveau de l'ambassade ainsi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur. Et non seulement ça, il faut dire aussi qu'il y a déjà 2 délégations qui sont venues pour recenser les équipes des étudiants tchadiens à 2 yeux et on a présenté même nos certificats de scolarité. On a présenté nos bulletins, ce qui atteste déjà, parce qu'avant de s'inscrire, il faudrait avoir cet arrêté de bourse-là. Et on était surpris que les autorités viennent encore nous demander cela.
Cela fait 2 semaines que certains de vos camarades occupent les locaux de l'ambassade, d'autres campent devant l'ambassade. Oui. Comment vous en sortez-vous?
On reçoit de l'aide de partout et c'est à travers ces aides-là, on a une cuisine à l'extérieur de l'ambassade et on prépare et on se partage avec nos amis qui sont à l'intérieur de l'ambassade.
Charles Dagou, porte-parole des étudiants tchadiens de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement à Ouagadougou.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
À Addis Abeba, 9 blogueurs et journalistes indépendants éthiopiens doivent comparaître devant la Cour suprême de leur pays ce mardi. Acquittés il y a 5 mois, ils courent de grands risques de retourner en prison, comme nous l'explique Lionel Gaima.
Âgé de 29 ans, le blogueur Abel Wabella a passé plus d'une année et demie en prison en compagnie d'autres blogueurs et journalistes indépendants. Acquitté il y a 5 mois, il dit mener une vie difficile. Nous ne pouvons pas partir à l'étranger, trouver un emploi est très difficile. Il ne nous est pas permis de travailler ou de nous déplacer. Abel est ingénieur de formation, mais la compagnie aérienne qu'il employait ne veut plus de lui. En avril 2014, 6 blogueurs, dont lui et 3 journalistes indépendants, avaient été arrêtés et accusés sous la loi antiterroriste éthiopienne d'incitation à la violence à travers les médias sociaux. Tous ont été acquittés, mais le procureur a interjecté l'appel. Ils seront fixés sur leur sort à l'issue de la comparution devant la Cour suprême éthiopienne. L'un d'eux, Atnaf Berhan, vit dans la peur. Depuis ma libération, je ne fais rien car je sais que tous mes faits et gestes sont surveillés. J'ai peur de retourner en prison. L'appel en cours est comme une chaîne pour moi et je me prépare à la prison. L'Éthiopie est souvent critiquée par les organisations de défense des droits humains pour violation de la liberté de la presse. Son gouvernement soutient que les journalistes emprisonnés sont des criminels utilisant le journalisme comme couverture. L'une des prisons éthiopiennes est divisée en 8 zones. La zone 9 désigne, dans le vocabulaire des blogueurs, l'Éthiopie dans son ensemble comme étant une grande prison. Kerry Patterson est chercheuse pour l'Afrique au Comité pour la protection des journalistes basé à New York. Le tagline ou slogan des blogueurs de la zone 9 est qu'ils écrivent parce qu'ils se soucient des autres. Ces jeunes qui sont profondément engagés en faveur d'une Éthiopie plus sécurisée, plus libre, meilleure, plus démocratique, et ils font face à la répression à tous les coups. Le blogueur Abel et Atnaf et les autres pensent que l'avenir est sombre en Éthiopie. Ils n'en continuent pas moins d'écrire en attendant la décision de la Cour suprême éthiopienne.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington. On rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le voaafrique.com et également sur la page Facebook de VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et Roger, que vous avez maintenant le plaisir de retrouver en live et en vidéo, en chair et en os, sur notre page Facebook. C'est tous les soirs, 20h, temps universel, la page Facebook voaafrique.com. On va écouter quelques notes de musique, un groupe qui cartonne en ce moment aux États-Unis, DNCE, Cake by the Ocean.
Masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously.
Talk to me, baby.
Keep on hoping.
carefully. Let's start living dangerously.
Voilà, beaucoup d'énergie envoyée depuis Washington. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Nicolas Pineau était à la présentation. Excellente journée à tous. On va saluer Sansou Kourikou qui habite à Lomé, c'est au Togo. On va faire un grand coucou à tous ceux qui nous écoutent au Niger, à Niamey, sur le 102.5, notamment sur le quartier Yantalaha et Yantalao. Et on va évidemment vous donner rendez-vous sur notre page Facebook, déjà plus d'1 million de fans, et notre site internet voaafrique.com.